C'est l'heure de l'info sur Radio Panique. Décrypter, débattre, discuter, c'est l'actualité en 3D. Avec le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique et Panique, radio d'expression et de création reconnue en éducation permanente.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM en région bruxelloise ou via notre stream sur notre site internet www.radiopanique.org. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'actualité en 3D, définir, décrypter, débattre avec le CRISP. Pour ce nouvel épisode, nous allons revenir sur une actualité qui nous a fort occupés tout au long de l'année passée. Il s'agit bien entendu de la crise sanitaire et de la façon dont les autorités publiques l'ont gérée. En particulier, nous allons revenir sur un épisode récent de cette actualité. En effet, le 20 août 2021, était publiée au Moniteur belge une loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, une loi plus connue sous le nom de loi pandémie. Par l'adoption de cette loi, le Parlement entendait mettre fin à de nombreux mois de controverses sur le fondement juridique des mesures qui ont présidé à la gestion de la crise sanitaire en général, à l'organisation du confinement en particulier. Que prévoit cette loi ? Son contenu répond-il aux critiques adressées par la société civile depuis le début de la crise sanitaire ? Critiques qui ont d'ailleurs débouché sur plusieurs actions en justice aux résultats contrastés. Quel fut le processus parlementaire qui a permis l'adoption de cette législation ? Quelle a été l'attitude des partis politiques quant à ce vote ? Cette loi va-t-elle dès à présent changer la façon dont nos autorités gèrent cette crise ? Ou ne vise-t-elle à s'appliquer qu'aux futures crises pandémiques ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir deux membres du CRISP, deux membres habitués de notre antenne, Caroline Sagesser d'une part, Vincent Lefebvre d'autre part.
Décrypter, débattre, discuter, c'est l'actualité en 3D. Avec le CRISP et Radio Panique.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors Caroline, je rappelle, vous êtes historienne et bien entendu chargée de recherche pour le CRISP. Bonjour Vincent.
Bonjour Julien.
Vous êtes juriste et philosophe et évidemment aussi chargée de recherche pour le CRISP. Alors on va donc évoquer avec vous deux cette fameuse loi pandémie. Peut-être pour directement entrer dans le vif du sujet, Vincent Lefebvre, cette loi pandémie, c'est quoi finalement ? Est-il possible de la résumer en quelques mots ?
Oui, c'est une loi qui a été récemment adoptée et qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été votée par la Chambre des représentants le 15 juillet dernier et a été signée par le roi, sanctionnée et promulguée le 14 août, publiée au Moniteur belge du 20 août et est entrée en vigueur depuis le 4 octobre. Alors, cette loi a souvent été qualifiée dans le débat public toujours qualifiée de loi pandémie, mais en réalité, son nom complet, et c'est important de s'y arrêter pour des raisons techniques sur lesquelles on reviendra, est loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Et chaque mot compte, on le verra dans la suite de notre discussion. Alors, le processus relatif à l'adoption de cette législation s'est bien sûr déroulé, comme vous le disiez, durant et en raison d'une période exceptionnelle de l'histoire de la Belgique, c'est-à-dire la crise sanitaire que nous vivons depuis mars 2020. En deux mots, cette législation vise à conférer aux mesures restrictives des libertés et droits fondamentaux un encadrement légal plus satisfaisant, car la base légale des diverses mesures sanitaires que nous avons connues a fait l'objet d'un certain nombre de mouvements de contestation.
Alors on va évidemment revenir sur le contenu plus précis de cette loi, mais peut-être Caroline, pourquoi le CRISP finalement s'est-il intéressé à cette loi ? C'est le suivi de vos travaux, de suivi de cette crise sanitaire ?
Oui, tout à fait. Je crois que dès le début, au CRISP, nous avons eu conscience du fait que cette crise sanitaire exceptionnelle allait déboucher sur une situation politique et juridique inédite dans notre pays. Donc on a publié très rapidement des courriers hebdomadaires pour faire le point sur la mise en place de ce qui est finalement un régime d'exception pour gérer la crise sanitaire, qui a introduit des limitations aux libertés des individus inédites, on l'a rappelé, en période de paix. Et puis ensuite, cette crise sanitaire a eu un impact politique important, puisque nous avons eu autre situation inédite, un gouvernement fédéral minoritaire présidé par Sophie Wilmès, et on peut même imaginer que la mise en place du gouvernement De Croo il y a un an a été influencée par le déroulement de cette crise sanitaire. Donc il n'était tout normal que nous nous intéressions à cette loi pandémie qui devait venir modifier fondamentalement la façon dont le politique allait gérer cette crise sanitaire et les possibles crises sanitaires à venir. Donc oui, ça s'inscrit clairement dans le prolongement d'un intérêt du CRISP pour la gestion de cette crise Covid.
Plusieurs travaux en effet du CRISP, hein, on y a fait écho sur cette antenne consacrée à la gestion de cette crise. Vincent Lefebvre, on vient d'évoquer le contexte sociopolitique dans lequel s'est inscrit l'adoption de cette loi. Maintenant, on peut en venir à son contenu. Quel est concrètement le contenu de cette loi ?
Oui, on peut proposer à nos auditeurs une rapide description du contenu de la loi pandémie. Alors, c'est ici un résumé, cette loi est quand même assez complexe, mais je vais essayer de dégager ces grandes lignes de force. La première chose peut-être qui doit être précisée, c'est que le législateur a entendu régir une situation d'urgence épidémique. Donc on n'a pas édicté un régime d'exception qui pourrait être utilisé dans d'autres contextes, par exemple à la suite d'une attaque terroriste ou d'un accident nucléaire.
Donc ici, c'est strictement limité aux urgences épidémiques.
C'est ça, c'est le périmètre de cette législation, les urgences épidémiques. Pas forcément d'ailleurs les situations épidémiques.
La notion d'urgence est importante.
La notion d'urgence est certainement importante et on le voit pour l'instant dans l'application de cette loi. On y reviendra par la suite. Il faut peut-être rentrer dans le schéma de la législation qui est assez complexe. On peut d'abord évoquer les autorités qui sont habilitées à prendre des décisions en cas d'urgence épidémique depuis l'adoption de cette loi. Et En deux mots, la ratio legis, comme disent les juristes, donc l'intention du législateur, c'est de rééquilibrer les prérogatives respectives du gouvernement fédéral, du ou de la ministre de l'Intérieur en son sein, et du Parlement, et en tout cas de la Chambre des représentants. Donc il y a un rééquilibrage des pouvoirs qui est opéré par cette loi. Alors, dans le système qui est prévu dans la loi, il y a tout d'abord un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qui doit être pris pour constater l'état d'urgence épidémique. Il s'agit là d'une décision qui est en quelque sorte génératrice de l'état d'urgence sur le plan juridique, mais qui implique aussi de constater très concrètement, dans les faits, qu'on est effectivement en présence d'une situation d'urgence épidémique sur la base de différents critères, comme la pression exercée sur les hôpitaux et les services de soins intensifs, critères qu'on connaît d'ailleurs malheureusement depuis le début de cette pandémie. Alors cet arrêté royal ne peut être pris qu'après que le gouvernement fédéral ait recueilli l'avis du ministre de la Santé fédéral et à la suite d'une analyse de la situation sanitaire par un organe spécialisé. Pour permettre la tenue d'un débat démocratique, et c'était là une revendication centrale de la société civile pendant la crise, l'état d'urgence doit ensuite être confirmé par la Chambre des représentants dans un délai de 15 jours. Et cet état d'urgence, s'il est confirmé, est d'une durée maximale de 3 mois, qui peut toutefois être renouvelée autant de fois que cela est nécessaire.
Donc un arrêté royal, une confirmation par la Chambre, et qui ouvre alors là une période de 3 mois.
C'est ça, une période de 3 mois dans laquelle des mesures restrictives des droits et libertés pourront être prises pour lutter contre la situation d'urgence épidémique. Alors, en principe, par la voie d'arrêtés royaux adoptés par le gouvernement fédéral, et en cas d'urgence, on a gardé quand même cette possibilité dans la loi, au moyen d'arrêtés ministériels signés uniquement par le ou la ministre de l'Intérieur. Alors, ces arrêtés royaux ou ministériels ont eux-mêmes une durée maximale de 3 mois et doivent être communiqués, c'est l'idée d'une communication entre les pouvoirs, d'un dialogue entre les pouvoirs, à la Chambre des représentants avant d'être publiés au Moniteur belge. Et enfin, dans ce nouveau système légal, on trouve une sorte d'obligation de rapportage ou de monitoring, comme on dit, où le gouvernement fédéral doit transmettre chaque mois un rapport à la Chambre afin de rendre compte de la nécessité de maintenir cet état d'urgence épidémique et des décisions qui ont été prises dans ce cadre. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est important, que les mesures qui sont adoptées peuvent être en tout cas assorties de sanctions pénales, ce qui était le cas actuellement, mais ici on a de nouveau prévu une base légale plus solide pour ces fameuses sanctions pénales qui ont touché un nombre important de citoyennes et de citoyens depuis le début de la crise.
Alors, mais pour bien comprendre le progrès, entre guillemets, qu'apporte cette nouvelle législation, je pense qu'il est utile de revenir au système antérieur, au système qui a régi cette crise depuis son apparition en mars 2020. Caroline Sagesser, vous pouvez peut-être nous résumer quelle a été la situation entre mars 2020 et août ici 2021.
Oui. Alors, reportons-nous à la situation en mars 2020, quand l'épidémie de Covid-19 arrive en Belgique. Nous sommes dans une situation politique extrêmement sérieuse. Sophie Wilmès est à la tête d'un gouvernement fédéral minoritaire en affaires courantes, il l'est depuis décembre 2018, quand la NVA a fait tomber le gouvernement Michel, et Sophie Wilmès elle-même a remplacé le Premier ministre Charles Michel. Et donc la situation politique est précaire, les élections de mai 2019 n'ont pas permis de constituer un gouvernement, il va falloir réagir rapidement et se donner les moyens de gérer cette crise sanitaire qui s'annonce extrêmement sévère. Alors il va y avoir des réactions rapides et je dois dire finalement globalement assez efficaces. Un accord politique va permettre de remettre sur les rails un gouvernement de plein exercice avec le soutien de parlementaires extérieurs au gouvernement et on va voter à ce gouvernement Wilmès des pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, c'est une technique qui permet à l'exécutif, au gouvernement, de modifier par arrêté des dispositions qui d'habitude auraient besoin de la sanction du législateur d'un vote à la Chambre des représentants.
L'intérêt du dispositif, c'est d'aller plus vite.
L'intérêt, effectivement, c'est d'aller plus vite et, en l'occurrence, de gérer les conséquences de l'épidémie, notamment en matière économique, en matière d'organisation de la politique de santé, en matière sociale, etc. Et là, il y a une ambiguïté parce que beaucoup de nos concitoyens vont croire que ce sont ces pouvoirs spéciaux qui vont permettre au gouvernement fédéral de prendre toute une série de mesures, le confinement, le couvre-feu, etc., toutes ces limitations. On va penser que ce sont ces pouvoirs spéciaux qui ont permis au gouvernement de prendre ces mesures.
Et en fait, pas du tout.
Et en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, les premières mesures de restriction des déplacements, de fermeture des écoles, etc., sont antérieures aux pouvoirs spéciaux. On a fait appel à la compétence, comme Vincent l'expose, de police administrative du gouvernement. Et donc, on va gérer cette crise par le biais d'arrêtés ministériels signés simplement par le ministre de l'Intérieur. Donc, on va considérer qu'il s'agit d'une situation de crise, comme pourrait l'être par exemple un risque de caractère sécuritaire, un risque terroriste, une menace imminente d'explosion à une centrale nucléaire, que sais-je. Donc on utilise un dispositif qui initialement est pensé pour permettre une réponse rapide à une situation d'urgence qui par définition ne devrait pas être durable. Et il faut rappeler qu'un arrêté ministériel, c'est vraiment une norme assez basse dans l'ordre juridique. Théoriquement, même si pratiquement elle a été délibérée en Conseil des ministres, mais théoriquement elle est de la responsabilité du seul ministre de l'Intérieur, elle n'est pas soumise à l'avis préalable du Conseil d'État. Donc c'est vraiment une norme assez basse qui va prendre des mesures absolument inédites en Belgique. Songeons par exemple à la liberté de culte. On va arrêter les cérémonies religieuses, puis on va très fort limiter la jauge de fidèles. Et c'est valable évidemment pour la liberté de se déplacer, pour la liberté de travailler, toutes les libertés qui ont été suspendues par un arrêté ministériel. Donc voilà le régime d'exception sur lequel on a vécu et on continue de vivre, mais c'est ce régime d'exception qu'on avait imaginé que la loi pandémie viendrait arrêter, qu'elle viendrait y mettre un terme.
Donc d'une part, des arrêtés de pouvoirs spéciaux qui permettent la gestion, on va dire, économique et sociale de la crise. D'autre part, des arrêtés ministériels qui vont permettre la restriction de certains de nos droits fondamentaux, de nos libertés publiques. Et vous venez d'évoquer une notion assez importante, c'est cette notion de police administrative qui est un petit peu le pouvoir qui permet à la ministre de l'Intérieur de prendre ces arrêtés ministériels. Vincent Lefebvre, la notion de police administrative, vous l'avez rappelé, elle est dans l'intitulé même de la loi qui vient d'être adoptée. Vous pouvez peut-être un peu nous expliquer c'est quoi cette notion de police administrative et quelle est finalement sa place dans la loi pandémie récemment adoptée.
On peut définir la police administrative comme l'ensemble des pouvoirs dont peuvent user les autorités publiques pour prévenir les atteintes à l'ordre public. Et l'ordre public est lui-même composé de trois éléments. Traditionnellement, il y a la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et comme on l'avait peut-être un peu oublié, la lutte contre les épidémies, en réalité, rentre dans cette troisième catégorie de salubrité publique. C'est vrai que quand on parle d'ordre public, généralement on pense à des troubles qui pourraient survenir sur la voie publique, par exemple à l'occasion d'une manifestation ou d'un autre événement. On ne pense pas forcément que la lutte contre les épidémies, c'est une manière de préserver l'ordre public. Et pourtant, juridiquement, c'est le cas. En Belgique, on a un système qui est assez complexe et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui est hiérarchisé, où le premier pouvoir compétent pour prendre des mesures qui visent à protéger l'ordre public, c'est le pouvoir communal. Si, pour des raisons d'ampleur du problème observé et contre lequel on doit lutter, on doit agir à un niveau supérieur, on agira au niveau des provinces. Et s'il faut encore agir à un niveau supérieur, national, c'est le ministre de l'Intérieur, en fait, qui se voit reconnaître un certain nombre de prérogatives qu'on a effectivement activées dans l'urgence qui était celle du mois de mars 2020. On s'en souvient, hein, c'était quand même une période assez exceptionnelle. Et donc, on a essayé de trouver des bases légales. En tout cas, le gouvernement fédéral, alors en place, a cherché des bases légales pour prendre toutes les mesures qu'on a connues. Et en particulier, Caroline le disait, la fameuse mesure du confinement généralisé décidé le 18 mars, et on s'est fondé sur diverses législations qui sont censées permettre prendre de telles mesures de police administrative dans le cadre d'une situation d'urgence mettant en cause la sécurité de la population. Ce sont trois lois qui ont été quand même souvent citées dans l'espace médiatique ces derniers temps, alors qu'auparavant elles étaient tout à fait inconnues, ou en tout cas peu connu du grand public et même de certains juristes. Alors on a une loi de 1963 sur la protection civile, une loi de 1992 sur la fonction de police, et enfin une loi de 2007 relative à la sécurité civile. Et c'est cette dernière loi d'ailleurs qui a permis de trouver une base légale pour cette mesure du confinement et aussi pour les sanctions pénales qu'on a pu attacher à certaines violations des règles de confinement.
Mais donc trois lois qui ont servi de base légale aux différents arrêtés ministériels, c'est cette base légale qui a fait l'objet, Caroline, de critiques assez répétées de la part d'universitaires, de juristes, de la société civile. On a parfois l'impression que finalement c'était moins l'atteinte à nos libertés qui était en cause que le fondement juridique de cette atteinte.
Oui, je pense en vérité qu'il y a les deux types de contestations. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui estiment que les mesures prises vont trop loin, qui sont contre le port du masque, qui sont aujourd'hui contre le Covid Safety Kit, qui sont opposés à la vaccination. Donc il y a un groupe d'opposants tout de même au contenu des mesures prises pour gérer la crise. Mais à côté de ça, et c'est effectivement davantage ce qui nous intéresse ici, il y a des juristes et constitutionnalistes, des défenseurs des droits fondamentaux qui se sont positionnés pour dire la façon dont cette crise est gérée par simples arrêtés ministériels n'est pas correcte. Pourquoi n'est-elle pas correcte? Ils ont estimé que la base légale que Vincent vient de rappeler n'était pas opportune parce qu'elle n'avait pas été prévue pour gérer ce type de choses. Ils ont également estimé que ce dispositif ne pouvait pas durer, que si l'on pouvait effectivement comprendre que dans l'urgence, au début du mois de mars, on ait eu recours à l'arrêté ministériel, mais au bout d'un certain temps, il fallait quand même revoir la base légale de l'action du gouvernement. Et enfin, surtout, et parallèlement, je dirais, ils ont estimé que de telles restrictions aux libertés fondamentales devaient passer par une loi et que plus fondamentalement, il fallait qu'il y ait un débat parlementaire à ce sujet et même au sujet du contenu des mesures. Je crois que vraiment un axe constant tout au long de la gestion de la crise et qui se raffermit au fur et à mesure que cette crise dure, c'est la dénonciation du confinement finalement de l'institution parlementaire et un peu d'ailleurs à tout niveau, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants ou des entités fédérées. Les débats parlementaires ont même parfois été suspendus. Même maintenant, on voit à la Chambre des représentants, on discute de la possibilité de faire revenir tous les députés en séance plénière pour la rentrée parlementaire de cette semaine, certains pensant qu'on peut encore, après tout, recourir à ce système mixte de réunion avec quelques députés en présentiel et puis d'autres qui sont là derrière leur écran. Donc oui, d'une manière générale, il y a aussi cette dénonciation du peu de voix que donnent les assemblées parlementaires dans la gestion de la crise.
Mais donc on a le sentiment alors que du coup ces différents appels de la société civile, des professeurs de droit ont été entendus.
Oui, c'est tout à fait cela. cela, et cela s'est fait d'une certaine manière par l'effet d'une sorte de valse entre différents protagonistes, par une interaction sur le plan sociopolitique entre différents acteurs, et c'est ça d'ailleurs avec Caroline qui nous a intéressé aussi dans ce processus d'adoption de la loi pandémie, c'est la pluralité hein, des acteurs impliqués. On a affaire à une conjonction de facteurs et pas à un paramètre en particulier qui aurait été prédominant. On a les mobilisations d'acteurs de la société civile qui viennent d'être rappelées, on a un certain nombre d'actions en justice sur lesquelles on va pouvoir sans doute se pencher. Et puis, on a aussi la conjonction des deux, c'est-à-dire des acteurs de la société civile, comme les ligues de défense des droits humains, qui font des recours en justice pour faire avancer des revendications qui sont plus de nature politique. Alors, il ne faut pas non plus négliger le rôle des partis politiques qui siègent dans l'opposition et qui, en particulier à partir du début de l'année 2021, ont commencé à relayer ces différentes revendications qui émanaient au départ d'autres acteurs sociaux et qui ont leur donné une nouvelle épaisseur, un nouvel écho sur le plan politique. À la Chambre des représentants, des députés siégeant dans l'opposition pour DEFI, pour le CDH, pour le PTB, pour la NVA, pour le Vlaams-Belang également, ont interpellé la ministre de l'Intérieur et le Premier ministre par rapport à cette situation d'illégalité ou d'inconstitutionnalité présumée des mesures sanitaires. Alors certains de ces partis ont aussi préparé des propositions de loi à la Chambre afin de marquer de leur empreinte cette discussion et de faire pression sur le gouvernement. Et finalement, le gouvernement fédéral s'est décidé en février 2021 à agir sur le plan législatif, le Premier ministre d'abord et puis Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur, ont annoncé des actions législatives pour encadrer la gestion de la crise sanitaire.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. Une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Oh oui, au deuxième temps de la valse, nous comptons tous deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne déjà. Et en Belgique, comment ça fait en Belgique?
On écoutait Pascal Piston avec cette reprise de la fameuse chanson de Jacques Brel, La valse à mille temps. Pascal Piston, personnage singulier de la scène musicale francophone, musicologue, professeur d'université et troubadour engagé. La valse à mille temps, Vincent Lefebvre, Caroline Sagesser, c'est une métaphore hein, pour un petit peu illustrer le jeu d'aller et de retour entre les différents pouvoirs constitués en Belgique. Je vous rappelle, on est toujours dans l'actualité en 3D. On décrypte avec vous deux l'adoption, la genèse de cette fameuse loi pandémie qui vient d'être adoptée cet été par le Parlement fédéral. Précisément, Caroline, comment s'est déroulé le processus parlementaire qui a abouti à l'adoption de cette loi ?
Alors c'est un des éléments intéressants dans ce dossier, la procédure parlementaire a revêtu un caractère inédit. Habituellement, le gouvernement adopte un texte, un projet de loi et le dépose à la Chambre des représentants pour qu'elle l'examine, l'amende et l'adopte, ou voire le rejette. Mais dans notre système, généralement, les projets de loi sont adoptés par la majorité parlementaire. Alors ici, le gouvernement a voulu montrer qu'il avait entendu les critiques portant sur le manque d'implication des députés dans la gestion de la crise. Et donc, il a décidé de leur confier un rôle dans l'élaboration du projet même. Et donc, fait inédit, il a envoyé, dès le mois de février 2021, l'avant-projet de loi au président de la Chambre pour que la Chambre des représentants puisse contribuer à l'élaboration du texte avant qu'il soit validé par le Conseil des ministres. Alors, il y a ce caractère inédit. Quand on examine le déroulement des opérations en commission à la Chambre, on s'aperçoit finalement que néanmoins, on est retombé sur quelque chose d'assez classique. Les auditions qui ont été organisées ont été extrêmement larges. On n'a pas le temps vraiment de s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que la Chambre a veillé à prendre vraiment le pouls de la société civile qui s'était abondamment manifestée sur cette question-là. Donc les auditions ont été larges. Le rapport que la commission de la Chambre a produit est extrêmement volumineux. Et donc oui, il y a eu un impact des discussions parlementaires en amont dans le contenu du projet de loi, mais finalement, ce qui a joué peut-être le plus fondamentalement, mais c'est l'avis du Conseil d'État, c'est aussi l'avis de l'autorité de protection des données qui a conduit à enlever du projet de texte toute une série de choses concernant la gestion de protection des données. Donc finalement, ce n'était pas un débat parlementaire radicalement différent de ceux qu'on peut connaître habituellement. Et par ailleurs, on a revu se dessiner des lignes, je dirais, assez classiques entre partis de la majorité et de l'opposition, alors que jusque-là, la crise Corona avait été, et surtout avant la mise en place du gouvernement de Croix, plutôt le cadre d'une forme, oserais-je dire, d'union nationale, mais quasi. Donc on avait bien vu que les partis qui n'étaient pas représentés au gouvernement avaient tout de même soutenu le gouvernement Wilmès d'une certaine façon.
Et accordé la confiance au gouvernement Wilmès, comme vous l'avez rappelé.
Effectivement, accordé la confiance et voter les pouvoirs spéciaux, pas la NVA, mais c'est un peu un détail. Tandis que là, on est vraiment de nouveau dans un processus un peu classique, majorité contre opposition. Le processus finalement a été relativement long, puisqu'il a couvert de février à juillet. Donc ça n'a pas permis vraiment d'accélérer les choses et ça n'a sans doute pas permis non plus d'aboutir à un texte, qui fasse l'objet d'un vaste consensus, puisque toute une série de partis de l'opposition ne sont pas satisfaits du texte et également toute une série d'acteurs de la société civile estiment qu'il ne répond pas complètement aux problèmes qui avaient été soulevés.
Alors, on a évoqué ici l'équilibre ou le jeu entre le pouvoir exécutif représenté par le gouvernement, le pouvoir législatif représenté par la Chambre des représentants, mais il y a un troisième pouvoir qui est intervenu également dans ce débat, c'est le pouvoir judiciaire. On sait que depuis le début de la crise, toute une série de recours visant à contester les différentes mesures adoptées par arrêté ministériel ont été introduits devant des juridictions. Qu'en est-il, Vincent Lefebvre, et quel est finalement le lien entre ces décisions de justice et l'adoption du projet de loi que vient d'évoquer Caroline ?
Oui, cette valse politique, si on peut l'appeler comme ça, si c'est une valse à trois temps, c'est une valse entre les fameux trois pouvoirs distingués par Montesquieu, législatif, exécutif, judiciaire. Alors, d'ailleurs, lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire en Belgique, constitutionnellement, en réalité, il y a le pouvoir judiciaire, mais il y a aussi la justice administrative et la justice constitutionnelle, hein, qui ne sont pas des notions identiques. Et ces trois types de justice ont d'ailleurs été impliqués, au moins virtuellement, dans les affaires qui ont été initiées. Alors, effectivement, il y a de nombreuses, depuis le début de la crise sanitaire, il faut savoir qu'il y a de nombreuses décisions de justice qui ont été rendues en lien avec la situation que nous vivons. Ils ne sont pas toujours médiatisés, mais ils sont assez nombreux, puisque les arrêtés ministériels dont on a déjà beaucoup parlé sont des actes posés par le pouvoir exécutif. Et donc, ils peuvent, à ce titre, dans un état de droit, être soumis à la censure d'une juridiction, et en l'occurrence la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il y a eu donc, je le disais, beaucoup de recours en suspension et en annulation qui ont été portés devant cette haute juridiction administrative. Et on peut dire que le Conseil d'État a globalement validé la stratégie de gestion de la crise qui a été mise en place par le gouvernement fédéral, hein, ce que d'ailleurs la ministre de l'Intérieur rappelle souvent, puisque selon le Conseil d'État, il existe une habilitation légale suffisante qui permet au ministre de l'Intérieur d'intervenir par le biais d'arrêtés ministériels. Toutefois, il faut aussi le savoir, dans certaines affaires, le Conseil d'État a plutôt invalidé certaines mesures qui avaient été prises par les autorités publiques. Mais ce n'était pas vraiment pour une absence de base légale ou une base légale insuffisante, mais parce qu'il a estimé que certaines mesures étaient disproportionnées ou génératrices de discrimination. Alors un exemple que peut-être on peut citer, c'est une décision largement médiatisée où le Conseil d'État a estimé en décembre 2020 que l'interdiction quasi totale des cérémonies religieuses qui était posée par l'arrêté ministériel en vigueur, était disproportionnée. Et donc, il a suspendu ces dispositions la ministre de l'Intérieur a dû intervenir et a permis à l'époque, à des jauges limitées à 15 personnes, de participer à un office religieux. Il y a eu d'autres affaires du côté du Conseil d'État, mais le Conseil d'État n'a pas été la seule juridiction qui a été amenée à intervenir.
Non, vous évoquiez aussi des juridictions de l'ordre judiciaire qui, elles aussi, ont été sollicitées pour contester en fait, les mesures qui ont été prises. On a notamment beaucoup entendu parler d'une ordonnance rendue par la présidente du tribunal de première instance de Bruxelles. C'était une ordonnance du 31 mars. Qui a fait l'effet d'une petite bombe judiciaire à l'époque. Vous pouvez peut-être nous rappeler le contenu de cette ordonnance et puis son suivi dans la procédure judiciaire.
Oui, tout à fait. C'est une décision qui a été particulièrement marquante. Mais ici, je voudrais simplement rappeler que du côté des juridictions judiciaires, on a eu aussi toute une série de décisions qui ont été rendues avec une jurisprudence assez divisée. Et ça pourra intéresser nos auditeurs parce que c'est dans le cadre en fait, d'infractions, ce qu'on a appelé les infractions corona, c'est-à-dire des personnes qui violent les règles sanitaires.
Qui se sont rassemblées, qui n'ont pas respecté le couvre-feu, par exemple, qui ont, organisé des fêtes privées, des choses comme ça.
Tout à fait, ou qui ont parfois été dans l'espace public sans masque pour une raison ou une autre, alors que celui-ci était obligatoire. Donc on a... très concrètement, dans ces cas-là, on reçoit une transaction du parquet qui est en fait une proposition d'arrêter la possibilité qu'il y ait des poursuites judiciaires en payant une somme d'argent. Mais certains justiciables, citoyens, se sont retrouvés devant des juridictions et ont plaidé, ont fait valoir que ces fameux arrêtés ministériels ne disposaient pas d'une base légale suffisante. Et certains juges, alors c'est plutôt une minorité de juges, il faudra évaluer ça par la suite, mais en tout cas c'était pas il y a une jurisprudence, comme je le disais, assez divisée sur cette question, mais en tout cas certains juges les ont suivis et donc ont refusé d'appliquer ces arrêtés ministériels, mais dans le cas particulier qui était porté devant eux. Donc on observait au début de l'année 2021 une situation assez contrastée où d'un côté, le Conseil d'État, comme j'ai dit tout à l'heure, validait plutôt le système, et puis d'autre part, des décisions dans un sens ou l'autre. Mais effectivement, un élément important sur le plan juridictionnel, c'est cette fameuse ordonnance du 31 mars rendue par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
Alors, qui était à l'initiative de cette action en justice et quelle était en réalité sa portée la revendication qu'elle traduisait?
Alors c'est la Ligue des droits humains en réalité qui était à la manœuvre, qui d'ailleurs a fait aussi des actions devant le Conseil d'État précédemment, et finalement ne trouvant pas de satisfaction de ce côté, la Ligue des droits humains a élargi sa stratégie juridictionnelle et a annoncé en février 2021 avoir saisi non le Conseil d'État mais le tribunal de première instance francophone de Bruxelles en référé, donc c'est une procédure urgente, et afin de contester la gestion de la crise au moyen d'arrêtés ministériels. C'était vraiment ça le sens de la demande. La Liga Voormensenrechten, donc l'équivalent de la Ligue au nord du pays, a rejoint son équivalent francophone, et donc ces deux ligues de défense des droits humains ont entendu s'attaquer au fondement légal et constitutionnel des mesures prises au moyen d'arrêtés ministériels, mais ont aussi invoqué le manque de proportionnalité des mesures ou alors un élément important qui est l'absence systématique de consultation de la section de législation du Conseil d'État. Alors le 31 mars 2021, coup de tonnerre, le tribunal de première instance de Bruxelles condamne l'autorité fédérale en raison de l'apparente illégalité des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Alors, si on lit l'ordonnance, l'autorité fédérale est sommée de mettre fin à cette situation d'illégalité dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le paiement d'une astreinte pourra être exigé par les associations à l'origine du recours, les ligues de défense des droits humains. Alors, cette décision a été fortement médiatisée. Elle arrivait à un moment qui était assez tendu au niveau sociopolitique. Pensons que la fameuse boom était survenue le lendemain, le 1er avril de cette décision. Et l'autorité fédérale, donc le niveau central au sein de l'État belge, décide d'interjeter appel de cette décision. Mais à partir du 31 mars s'ouvre en réalité dans notre pays une période de grande insécurité juridique, puisque les effets exacts de cette ordonnance, de cette décision de justice, sur la validité des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là, fait l'objet d'interprétations divergentes, alors parmi la population, mais aussi parmi les juristes.
D'accord, donc une ordonnance qui, quelque part, oblige l'État belge et en particulier l'autorité fédérale à légaliser le système mis en place, mais une ordonnance qui va être réformée par la Cour d'appel de Bruxelles. On est au mois de juin 2021.
Oui, tout à fait. Au mois de juin, alors c'est quelques semaines plus tard, mais en réalité, cette période paraissait particulièrement longue, vu cette insécurité que je viens de rappeler. Mais effectivement, la Cour d'appel de Bruxelles, elle estime que, contrairement à ce qu'avait dit la juge en première instance, que les arrêtés ministériels litigieux sont dotés d'une base légale en apparence suffisante. Mais comme en droit, les choses ne sont jamais simples, en réalité, elle reconnaît qu'il pourrait y avoir un problème de constitutionnalité qui affecterait éventuellement les trois lois que j'ai évoquées tout à l'heure de 63, 92, 2007.
Protection civile, sécurité civile et fonction de police.
C'est ça, et que ces lois elles-mêmes pourraient être affectées d'un vice de constitutionnalité en quelque sorte, parce qu'elles délèguent une compétence à un ministre, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, mais dans des termes trop généraux. Et ce problème de constitutionnalité, dit la Cour d'appel de Bruxelles, elle ne peut pas le trancher parce que dans notre pays, il appartient, comme dans un certain nombre de pays, d'états de droit, il appartient uniquement à la Cour constitutionnelle, une juridiction fédérale, de contrôler la constitutionnalité des lois. Et il se fait que la Cour constitutionnelle a elle-même été interrogée par d'autres juridictions et qu'il y a ce qu'on appelle une question préjudicielle qui est en cours.
On attend toujours la réponse de la Cour constitutionnelle.
On attend la réponse de la Cour constitutionnelle. On l'attendra peut-être un certain temps, puisque ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour avoir un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est beaucoup sollicité. Et on a donc une période, une saga judiciaire finalement qui se termine de telle façon que pour les justiciables ou certains justiciables, la situation n'est pas claire. Je parlais des amendes corona, certains se sont fait acquitter, certains se font condamner, certains juges, tribunaux de police ont indiqué qu'ils attendaient que la Cour constitutionnelle se prononce pour se prononcer elle-même sur la question de la légalité ou de la constitutionnalité des amendes. Donc on voit qu'il y a eu un jeu assez complexe qui s'est mis en place, parfois au détriment des justiciables.
Donc une jurisprudence finalement encore à ce stade assez incertaine, assez instable. Est-ce que quelque part l'adoption récente de la loi pandémie met fin en quelque sorte à cette instabilité? Est-ce que cette loi est une façon de siffler la fin de la récréation judiciaire, Caroline?
Rien n'est moins sûr, Julien. Alors de toute façon, la loi n'a pas d'application rétroactive, donc elle ne viendrait pas trancher ce qui est actuellement à l'examen auprès de la Cour constitutionnelle, mais on avait pu penser qu'elle offrirait un cadre stabilisé pour l'avenir. Et donc la Chambre a finalement adopté cette loi le 15 juillet et tout le monde est parti en vacances après la fête nationale, tranquillisé, en se disant voilà, maintenant on a une loi Corona, c'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité dans tous ces détails, mais elle est là, cette base juridique. Puis on a attendu, on est revenu en septembre, au travail, on s'est dit, tiens, au fond, la loi Corona, où est-elle? Et on a découvert avec surprise que cette loi votée le 15 juillet, pour laquelle on avait accéléré, on avait vraiment donné un petit coup de fouet aux parlementaires, on disait, écoutez, avant les vacances, il faut adopter la loi. Eh bien, on a attendu le 20 août pour qu'elle soit sanctionnée et promulguée. C'est-à-dire, bon, donc, que le roi la signe et qu'elle soit publiée au moniteur un mois, que rien ne justifiait, parce que d'une part, le roi était encore là, tout le monde l'a vu le 21 juillet au défilé, et que par ailleurs, on lui envoie fréquemment des textes à signer, même s'il est en vacances à l'étranger. Donc on a l'impression qu'on a un peu retardé la publication de cette loi, ce qui conduit également à en retarder l'entrée en vigueur, puisque la loi dit qu'elle entre en vigueur à une date que le Conseil des ministres va déterminer, ou par défaut au 31e jour ouvrable qui suit sa publication. Alors si on compte bien, voilà, c'est maintenant, c'est le 4 octobre que la loi a dû entrer en vigueur. Et donc elle est entrée en vigueur et rien n'a signalé, rien n'a changé. Alors pourquoi des journalistes ont fini par aller interroger la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui a expliqué qu'en fait, les conditions prévues par la loi pour une situation d'urgence épidémique n'étaient pas remplies. Et que donc la procédure prévue par la loi, avec cet arrêté royal qui déclencherait cette situation d'urgence épidémique qui serait suivie d'un débat parlementaire, n'existe pas. Et donc ce que beaucoup d'observateurs, surtout néophytes et non-juristes dont je suis, n'avaient pas compris, c'est que la loi permet encore au régime précédent de subsister. La loi en fait dit, voilà, il y a deux possibilités. Ou bien nous sommes vraiment dans une situation d'urgence épidémique sur base des conditions prévues par la loi, et dans ce cas effectivement, on enclenche la procédure qui permettra à la Chambre des représentants d'avoir un débat et d'exercer un contrôle sur les mesures Corona, ou bien on est simplement dans une situation épidémique, on va dire sévère mais pas urgente, et dans ce cas-là, on continue comme avant, avec les mêmes bases légales, et la ministre de l'Intérieur en l'occurrence, peut continuer à agir par le biais d'arrêtés. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui peut un peu surprendre, voire même dépiter. On se demande, et c'est fort triste, est-ce qu'il faut espérer une hausse des contaminations à Bruxelles, de nouvelles entrées dans les hôpitaux pour que, effectivement, cette loi soit appliquée et qu'on ait un débat parlementaire. Évidemment non, il ne faut pas l'espérer, mais on est dans cette situation où on se sent un peu Grosjean comme devant et on se dit finalement tout ça. Pour ça.
Mais donc, tout ça pour ça, en conclusion, peut-être le mot de la fin, ce que vous venez de pointer ici, donc la coexistence de ces deux régimes selon qu'on est dans une situation d'urgence épidémique ou dans une situation d'épidémie tout court, fait l'objet actuellement de critiques de la part d'observateurs. Les personnes qui s'étaient mobilisées aujourd'hui reprennent leur bâton de pèlerin pour critiquer finalement l'adoption de cette loi.
Oui, tout doucement. On a vu deux ou trois cartes blanches paraître dans la presse cette semaine. Je crois qu'il faut un peu attendre que peut-être l'effet de surprise soit digéré. Mais effectivement, je suis bonheur qu'on peut s'attendre à un renouveau de mobilisation sur ce point.
Merci beaucoup Vincent Lefebvre. Merci beaucoup Caroline Sagesser pour vos explications sur cette loi pandémie. Je vous propose que l'on clôture cet entretien, comme d'habitude, par la lecture d'une entrée empruntée au vocabulaire politique du CRISP, vocabulairepolitique.be, et on va revenir sur une notion qui est au cœur de la discussion que nous venons d'avoir. Cette notion, c'est celle de séparation des pouvoirs, et on écoute Sarah nous lire l'entrée séparation des pouvoirs.
Vocabulaire politique, définition. Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires qui constituent une caractéristique essentielle des régimes démocratiques. Sous l'Ancien Régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique, en revanche, l'ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d'une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques,
est celui de juger les crimes ou les différends des particuliers, écrit-il dans l'Esprit des lois en 1748. Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine en 1787 et les travaux de l'Assemblée nationale dans la France de la Révolution en 1789. La Constitution belge de 1831 veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les 6 réformes de l'État, qui ont transformé la Belgique en État fédéral, n'ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué à cet égard un régime d'exception. Dans les colonies, le roi, donc le gouvernement, concentrait entre ses mains les pouvoirs législatifs et exécutifs. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires d'une part et par le roi ou les différents gouvernements d'autre part. Le pouvoir exécutif est confié au roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. S'il n'existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de parlement de communauté ou de région, avant le ministre-président de l'entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l'ensemble des rouages de la puissance publique. La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l'image d'une pure étanchéité. Les rapports entre les 3 pouvoirs sont organisés de telle sorte qu'un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproques. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l'augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l'exécutif par le biais d'arrêtés et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l'élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le Parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l'effet de l'exception d'illégalité organisée par l'article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d'État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui est exercé par la Cour constitutionnelle, suivant diverses modalités.
Le vocabulaire politique sur Radio Panique.
C'était donc Sarah qui nous lisait l'entrée « Séparation des pouvoirs », une entrée que vous pouvez retrouver en ligne sur le site vocabulairepolitique.be, définition qui clôturait l'entretien que nous venons d'avoir avec Caroline Seguesser et Vincent Lefebvre à propos de l'adoption de la loi pandémie. Entre-temps, nous ont rejoint Jean Faniel, bonjour Jean.
Bonjour.
Directeur du CRISP et Cédric Istas, bonjour Cédric.
Bonjour.
Rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire, et avec vous deux, on va passer en revue quelques publications récentes du CRISP. Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire, Cédric, et précisément, 2 courriers hebdomadaires sont consacrés au vote nominatif à la Chambre des représentants. Ils sont signés par Frédéric Verleiden. Le tome 1 porte sur l'évolution des règles en vigueur 1831-2020 et le tome 2 porte sur les usages parlementaires et votes des groupes 1995-2019. Cédric Istas, pour présenter ces 2 publications, peut-être nous expliquer ce que signifie l'expression « vote nominatif ».
Un vote nominatif, c'est lorsque l'on peut savoir le vote qui a été émis par chaque parlementaire. Lorsque le vote de chaque parlementaire est enregistré et mentionné dans les comptes rendus des séances. Par exemple, par appel nominal, c'est ce qui se faisait au XIXe siècle, on appelait les parlementaires un par un pour savoir s'ils disaient oui, non ou s'ils s'abstenaient, ou aujourd'hui par des machines de vote. Ça s'oppose donc au vote secret, on ne sait absolument pas qui a voté quoi, ou au vote par assis et levé, les parlementaires se lèvent ou restent assis et on compte juste le nombre de levées pour savoir le nombre de oui, ou encore les votes à main levée.
Ok, et en quoi ce système de vote est-il un objet privilégié de recherche de la part du CRISP ?
Bien, c'est toujours très intéressant de savoir évidemment quel est le résultat d'un vote, mais on peut aller plus loin. On peut également savoir qui a voté quoi, donc quel parlementaire a voté pour, a voté contre, s'est abstenu. Ça peut être utile pour le citoyen, pour savoir comment s'est positionné les représentants qui sont élus. Mais en tant que chercheur, c'est très intéressant, notamment pour étudier la discipline de groupe. Vous savez que nous sommes dans un régime politique qui est souvent qualifié de particratie, donc où les partis politiques ont beaucoup de poids sur les processus de décision politique. Et effectivement, on remarque que si théoriquement les parlementaires votent librement, en fait, ils votent selon les indications qui leur ont été fournies par leur parti politique. Et on parle, dans un cadre parlementaire, de groupe politique.
Alors, Cédric, il y a deux volumes pour ce courrier hebdomadaire. Pourquoi et quel est le contenu respectif de ces deux volumes ?
Alors, le premier, il reparcourt les règles en vigueur. Il faut savoir que les processus décisionnels dans une assemblée parlementaire ne sont pas uniquement liés au poids, donc c'est-à-dire au nombre de parlementaires dont dispose chacun des partis politiques. Il y a également toutes des règles qui sont inscrites dans la loi, dans la Constitution, dans le règlement de l'Assemblée et qui ont véritablement une influence sur le déroulement des processus décisionnels et in fine sur les votes qui sont posés. Par exemple, comment calcule-t-on le quorum pour savoir s'il y a, oui ou non, le nombre de parlementaires nécessaires pour pouvoir émettre un vote. Ça, c'est le premier aspect, donc le premier courrier hebdomadaire, c'est d'essayer de décrypter toutes les règles, d'en faire état et depuis 1831 et de montrer en quoi elles peuvent avoir une influence sur les décisions prises. Et le deuxième, c'est une étude de cas. On s'intéresse aux législations qui se sont succédées entre 1995 et 2019. Ça fait quand même plus de 13 000 votes nominatifs qui ont été émis à la Chambre des représentants. Et l'idée est de voir dans quelle mesure les parlementaires suivent ou non les consignes de leur groupe parlementaire, de leur groupe politique. Autrement dit, dans quelle mesure y a-t-il, oui ou non, des dissidents parmi les parlementaires ?
Frédéric Verleden, les votes nominatifs à la Chambre des représentants, volume 1, évolution des règles en vigueur 1831-2020, volume 2, usage parlementaire et vote des groupes 1995-2019, un courrier, un double courrier hebdomadaire que vous pouvez évidemment commander à partir du site du CRISP, crisp.be. Autre courrier hebdomadaire consacré à la vie parlementaire, il est signé par Serge Model, il s'intitule « Les comptes rendus parlementaires en Belgique », Cédric Istas. Concrètement, c'est quoi un compte-rendu parlementaire et en quoi ce type de document est-il utile ?
Alors, un compte-rendu parlementaire, c'est une consignation des débats qui ont lieu dans un Parlement. Mais attention, pas seulement les décisions qui sont prises in fine, à la fin d'un processus décisionnel, mais l'ensemble des discussions, des échanges, des prises de parole, etc., etc., qui ont été tenues dans l'Assemblée. Et ces comptes rendus représentent un instrument très important de la publicité des débats parlementaires, qui est un principe fondamental de toute démocratie. Donc, avec un compte rendu parlementaire, on a quelque part un procès-verbal des délibérations, ce qui permet d'éclairer les décisions qui sont prises et, par exemple, pour les juristes, de mieux interpréter la norme qui, in fine, est adoptée. Donc c'est utile pour le citoyen, pour l'historien, pour le politologue, pour le journaliste, mais aussi, de manière très concrète, pour le juriste. On peut dire que certains comptes rendus parlementaires deviennent, quelque part, une source du droit.
Alors, dans ce courrier hebdomadaire, l'auteur, Serge Model, entend ouvrir la boîte noire des procédés de réalisation de ces comptes rendus. Que veut-il dire par cette expression de boîte noire et en quoi s'intéresser aux modalités de réalisation de ces comptes rendus est intéressant pour le CRISP ?
Bien parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, un compte rendu, ce n'est pas juste un enregistrement automatique des débats parlementaires. On a tous suivi déjà des conférences, vous savez que dans vos notes, vous ne reproduisez pas intégralement et textuellement les propos de l'orateur. Avec les « e », on a tous eu des professeurs qui les multipliaient, avec des répétitions, avec des erreurs, avec des hésitations, etc. Donc, les services du compte rendu, ce sont plusieurs dizaines de personnes en Belgique, il y en a dans tous les parlements, et leur objectif à ces services est de refléter les débats de la manière la plus fidèle. Et d'une manière quelque peu paradoxale, ils ne doivent pas simplement les retranscrire, mais ils doivent aussi réaliser un travail de réécriture. Et puis vous avez par exemple, dans certains Parlement plusieurs types de comptes rendus. Et c'est très intéressant de connaître les coulisses, parce que voilà, ce sont des documents que l'on utilise très souvent, je vous dis les juristes, les historiens, et finalement, personne ne s'intéresse à la manière dont ils sont réalisés. Et ce qui est intéressant dans ce courrier hebdomadaire, il y a vraiment un côté critique de se dire, ben voilà, j'ai une source utile, mais comment est-elle réalisée ? Elle n'est pas juste une photographie de ce qui a été dit, hein, ce n'est pas comme une vidéo ou un enregistrement sonore, il y a un réel travail qui est réalisé pour aboutir à cette source. Voilà, à la fin de ce travail, quel est le degré de fiabilité que je peux lui accorder ? Quelle est la fidélité que cette source a par rapport aux débats qui se sont réellement tenus dans l'Assemblée ?
Serge Model, les comptes rendus parlementaires en Belgique, courrier hebdomadaire que vous pouvez commander via le site crisp.be. Dernière publication, il s'agit d'une analyse du CRISP en ligne. Comme son nom l'indique, vous la retrouvez gratuitement sur le site du CRISP. Elle s'intitule « Radiographie de l'actionnariat public en Belgique ». Elle est signée par Fabienne Collard et David Van den Abeele. Alors Jean Faniel, qu'entend-on par cette notion d'actionnariat public et en quoi est-ce un sujet intéressant pour le CRISP qui s'intéresse aussi, on l'avait déjà évoqué dans le cadre d'une émission précédente, à la vie économique du pays ?
Mais la vie économique, elle repose sur des entreprises. Et ces entreprises, elles sont possédées, elles sont contrôlées par des personnes, par des acteurs. Alors, les entreprises peuvent être possédées sous la forme de participation, des actions hein, notamment, et ces actions peuvent résider dans des mains privées, une famille un peu fortunée, des petits porteurs, ou au contraire des grands groupes très connus et éventuellement multinationaux. Les pouvoirs publics eux-mêmes peuvent aussi détenir en tout ou en partie des entreprises et être eux-mêmes, en quelque sorte, des groupes d'entreprises. Alors pourquoi ? Parce que les acteurs publics sont eux-mêmes des acteurs économiques. Et ils ont un rôle extrêmement important. C'était déjà un petit peu le cas au XIXe siècle, mais au XXe siècle et encore aujourd'hui, c'est devenu extrêmement clair. Et donc l'actionnariat public, c'est la part d'actionnariat de ces entreprises et de ces groupes d'entreprises qui est aux mains du public, des pouvoirs publics et en Belgique des différents niveaux de pouvoirs publics, que ce soit l'autorité fédérale, que ce soit les régions ou même les communautés, les provinces, les communes.
Concrètement, comment ce type d'actionnariat s'observe-t-il ? Fabienne Collard et David Van den Abeele pointent plusieurs structures publiques qui gère cet actionnariat ? Quelles sont ces structures, Jean Faniel ?
Alors, chacun des pouvoirs publics en Belgique, en tout cas région ou autorité fédérale, peuvent posséder des participations dans les entreprises de manière directe. Mais les régions et l'autorité fédérale ont également des structures qui le font pour elles, en quelque sorte. Et ainsi, il peut arriver qu'une autorité soit à la fois contrôleuse d'un certain nombre, enfin détentrice et donc contrôleuse d'un certain nombre de participations dans une entreprise, mais qu'elle en ait d'autres par le biais de son bras financier, comme on le dit dans le langage courant. C'est ainsi que la Loterie Nationale, par exemple, ou Bipost, sont à la fois détenus en partie par l'autorité fédérale et à la fois par la SFPI, donc la Société Fédérale de Participation et d'Investissement, ce bras financier de l'autorité fédérale. Parfois, c'est uniquement la SFPI qui investit dans une entreprise pour développer un type d'activité, parce qu'on estime que c'est important, que c'est porteur économiquement, en termes d'emploi, etc. Parfois, éventuellement, parce qu'il s'agit d'activités plus stratégiques et qu'on a envie d'assurer un certain contrôle dessus. Du côté des régions flamandes, bruxelloises ou wallonnes, on a aussi des instruments de ce genre. Et là, comme c'est une matière qui a été en partie régionalisée déjà dès la fin des années 1970, on se retrouve dans une situation où ces trois régions ont chacune leurs instruments. Et elles ont des instruments, si on prend le cas de la Wallonie, qui sont adaptés à différentes formes d'investissement. Et d'ailleurs, la Wallonie est en train d'essayer de ramasser tout cela. D'ici un an à peu près, on devrait avoir une seule structure, mais pour l'instant, on en a trois. Une qui est plutôt axée sur les entreprises qui connaissent un développement assez important, la SRIW, Société Régionale d'Investissement de Wallonie. Une qui a plutôt été, dans son histoire, au chevet des entreprises plus en difficulté ou qu'il fallait aider à se reconvertir. Il y a évidemment eu tout l'épisode de la sidérurgie, et c'est encore une branche de son activité, mais il y en a eu d'autres aussi. Ça, c'est le rôle de la SOGEPA, la Société Wallonne de Gestion et de Participation. Et enfin, il y a la SOALFIN, la Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises. Et là, on devine évidemment, de par son nom, vers quoi elle est plutôt dirigée. Et bien entendu, la région Wallonne, elle peut aussi avoir des participations plus directes dans certaines entreprises. Donc on voit qu'il y a une certaine complexité, mais que l'idée reste bien que le pouvoir public ait une part d'investissement et de contrôle dans des sociétés qui lui paraissent importantes, soit en termes stratégiques, soit en termes de développement, d'essor de l'économie régionale, ou bien de reconversion, par exemple, d'une partie de cette économie qui est en difficulté.
Radiographie de l'actionnariat public en Belgique, une analyse du CRISP en ligne, signée par Fabienne Collard et David Van den Abel. Voilà, il est déjà temps de rendre l'antenne. Merci à tous les deux. Merci Cédric. Merci Jean. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'actualité en 3D. Et bien d'ici le mois prochain, portez-vous bien et restez à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
C'était l'actualité en 3D avec le Centre de recherche et d'information sociopolitique et Radio Panique.